jusqu'à 9h30.
Jusqu'à 9h30.
Vous écoutez Que la Mauricie se lève.
Que la Mauricie se lève.
Catherine le matin. Voici Catherine Gaudreau.
On l'avait prévu, hein, on l'avait prédit, vendredi. On savait que ça allait brasser en fin de semaine du côté de Paris. Ce qu'on disait, c'est que les attractions touristiques étaient en mesure notamment de rouvrir leurs portes aujourd'hui parce qu'il y a eu des affrontements entre les policiers anti-émeutes et des manifestants arborant des gilets jaunes. Ça fait 71 blessés en fin de semaine. Plusieurs dommages dans la capitale française. Il est du côté de Paris, notre collègue Fabrice de Pierrebourg. Bonjour Fabrice.
Bonjour Catherine.
Fabrice, je le disais vendredi, on savait là, que ça allait brasser. Est-ce que ça a été encore pire que ce qu'on avait prévu au départ?
Je dirais que c'était moins spectaculaire peut-être pour l'image par rapport à la semaine d'avant où on se souviendra, il y avait ces scènes vraiment chaotiques autour de l'Arc de Triomphe qui avait été envahi par les casseurs, tagués. Ils étaient montés au-dessus, puis il y avait ces énormes barricades en flammes toute l'après-midi. Les policiers avaient changé de stratégie, ils étaient présents en nombre, ils étaient environ 8000. Avec pour la première fois des blindés de la gendarmerie qui tiraient des gaz lacrymogènes et qui pouvaient démonter les barricades. Alors le côté pervers, c'est qu'il n'y a pas eu d'action aussi énorme que ça. Il y a une multiplication des barricades, des dégradations et sur un plus large territoire. Ça allait, pour ceux qui sont déjà allés à Paris, de tout le secteur des Champs-Élysées, mais aussi ça s'est propagé jusqu'au milieu de la nuit, jusqu'à plus le nord, nord-est de Paris, vers la place de la République. Donc, je dirais sur en gros un trajet d'environ 6 km, parce que les casseurs, à chaque fois qu'ils étaient pris en charge par la police, à la fois par anti-émeute, mais aussi il y avait beaucoup, beaucoup de policiers en civil, habillés avec chaussures de sport, jeans, blousons, casques, matraques, les pourchassaient, ils allaient dans les petites rues, puis dès qu'ils voyaient une vitrine, ils la cassaient, des voitures renversées, moi j'en ai vu plusieurs devant moi. Puis en soirée, c'était plus des jeunes qui sont venus des banlieues, qui ont décidé qu'ils allaient s'attaquer à des magasins. En général, leur truc favori, c'est des magasins de sport. Puis on les voit sortir avec des boîtes de chaussures de sport, des t-shirts, des chandails, etc. Donc les policiers ont eu beaucoup de mal à contenir tout ça. Mais en revanche, le nombre d'arrestations est spectaculaire. À travers toute la France, il y a eu 1800 arrestations. Et rien qu'à Paris, environ 1 000 000. Puis dès aujourd'hui, à Paris, dès midi, et pour 3 jours, il y a 5 salles du tribunal qui vont être ouvertes. Puis tous les gens qui sont arrêtés et toujours détenus vont comparaître. Puis la plupart vont avoir leurs peines qui vont être prononcées quasiment sur le banc. La semaine dernière, il y a eu beaucoup, beaucoup de peines d'emprisonnement. Donc, on va voir ce que ça va donner, quoi.
Fabrice, bon, évidemment, la colère est importante. Au départ, il y avait le prix de l'essence. Évidemment, c'est une colère contre les taxes trop élevées. Mais là, de plus en plus, là, il y a de nouveaux objectifs, là, parce que là, on parle de taxer les riches pour augmenter le salaire minimum. Et clairement, la cible, c'est Emmanuel Macron.
Ah oui, et puis de toute façon, dans le défilé, c'est sûr que c'est parti. Ça a été comme l'étincelle, le coût de la hausse du prix de l'essence en janvier, c'est très cher l'essence en France, là, déjà.
Combien à peu près, Fabrice, actuellement?
C'est à peu près pris en... Si nous, on la paye, moi j'ai remarqué ça, je vais souvent en France, si on la paye 1,30 $, eux, ils vont la payer 1,30 €. Donc, vous rajoutez la moitié, c'est peut-être 2 $. C'est au-delà du 2 $, de toute façon. Peut-être 2,30 $, 2,40 $. Puis, il faut comprendre que les Gilets jaunes, c'est majoritairement un mouvement de province, de région, où petit à petit, l'État a coupé, par exemple, dans les services publics de transport. Oui, à Paris, puis dans les grandes villes, maintenant, c'est impensable d'avoir une voiture, ça sert à rien. Il y a des métros, des tramways, 3 métros express, il y a tout ce que vous voulez. Mais en région, les gens, pour aller travailler, sont obligés de prendre leur voiture, puis ils sont étranglés par les taxes, ils se sentent étranglés par les impôts. Ils trouvent que dès qu'ils essayent de faire des heures supplémentaires pour améliorer leur train de vie, minimalement, ils se retrouvent avec des impôts supplémentaires. Donc finalement, c'est un ras-le-bol généralisé. Et c'est vrai que samedi, dans les rues, le slogan, c'était Macron démission. C'est tout dirigé contre lui. Puis là, ce soir, il doit prendre la parole enfin à 8h du soir, qui est l'heure où il y a le grand journal télévisé ici. Ouais. Puis les gens attendent beaucoup, tout le monde attend beaucoup, que ce soit les commerçants, les gilets jaunes, les policiers... les autres politiciens, tout le monde est excédé, tout le monde en a marre. Puis ça commence à donner une mauvaise image de la France. Comme m'a dit un commerçant, il m'a dit « Qu'est-ce qui va avoir envie de venir passer les fêtes à Paris ?» Là, quand vous voyez des images de voitures qui brûlent, que tous les samedis, les commerces sont barricadés, qu'il y a des gaz lacrymogènes. ça fait un peu comme après les attentats où Paris avait eu du mal à remonter la pente au niveau touristique. Là, c'est comme si de nouveau, ça recommençait, quoi.
Fabrice, hier, bon, il s'est exprimé un petit peu sur Twitter, M. Macron, mais il a surtout misé sur la reconnaissance envers les forces de l'ordre. Mais ce soir, on s'attend à quoi? Parce que là, vous le disiez tout à l'heure, c'est sa démission qu'on demande. Pourrait-il démissionner? Pourrait-il aller jusque-là?
Non.
Non. Okay.
Ben non, je pense pas, à moins qu'il y ait vraiment... samedi, il y avait eu beaucoup de morts, ce que tout le monde craignait. Si le pays est à feu et à sang, probablement. Minimalement, on pense que c'est probablement le premier ministre qui risque de sauter, d'être remplacé. Peut-être le gouvernement, ça sera juste fort. Mais ce soir, ce que les gens attendent, la pression est forte, c'est qu'il leur donne, pas que ce ne soit pas des mots, mais que ce soit des actes. C'est-à-dire que les gens veulent qu'on baisse les taxes. On réclame la hausse du salaire minimum. Ils veulent vraiment des actions puis des engagements qui soient forts, qui permettent aux gens de retrouver un minimum de pouvoir d'achat, parce que je vous assure que moi, j'ai habité à Paris il y a longtemps, c'est de pire en pire, c'est extrêmement difficile d'habiter par exemple à Paris avec un salaire normal. Les gens habitent de plus en plus loin pour payer moins cher, cercle vicieux, sont obligés de prendre leur voiture, ça leur coûte cher en transport, etc. Et les gens sont étranglés. Ce matin, j'ai pris un taxi, c'était une femme d'une quarantaine d'années qui conduisait. C'est sûr qu'elle avait des mots très durs envers les casseurs, elle trouvait que c'était inadmissible, qu'on était trop tolérants, etc. Donc un discours très musclé, mais en même temps, elle a dit, mais moi, là, dès que je fais une heure de plus, dès que j'essaye de gagner un petit peu plus ma vie, ben, pof, l'État arrive, il vient me le rechercher dans mes poches, ça n'a aucun sens. Et la seule chose sur laquelle elle était contente, c'est très symbolique, là, c'est qu'il y a près d'une gare de Paris, la gare Saint-Lazare, il y a un Starbucks qui était complètement dévasté. Puis je l'ai vu ce matin, puis c'était marqué en gros dessus, paye tes impôts Starbucks. Ça, la dame, elle disait, ça c'est bien, parce que c'est pas normal que pendant ce temps-là, des compagnies multinationales payent pas leurs impôts en France, prennent notre argent, mais payent pas l'impôt en France. Alors, vous voyez, c'est un peu cette espèce de ras-le-bol où ils considèrent qu'il y a deux classes de Français, finalement, les Parisiens, parce qu'ils appellent les Parisiens, c'est les gens au pouvoir, les banquiers, les multinationales, qui, eux, gagnent beaucoup d'argent, pendant que pour... Les petits commerçants, les gens de la classe moyenne, les gens à faible revenu, les chômeurs, ça devient de plus en plus difficile de vivre à Paris, quoi. De vivre en France, en général, quoi.
Fabrice, donc, évidemment, très suivi, ce discours d'Emmanuel Macron. Alors, 20h, heure de Paris, ce qui signifie... Est-ce que c'est 15h chez nous? Il y a 5h ou 6h actuellement?
Non, il y a 6h.
Il y a 6h, voilà. Heures. Alors, 14h.
Ouais. C'est sûr que parce que déjà, depuis deux jours, il y avait des appels à ce qu'ils appellent l'acte 5, c'est-à-dire une cinquième journée de mobilisation dans Paris, dans la province, pour samedi prochain. Puis là, on entendait tout à l'heure même les représentants des commerçants, des petites entreprises, ils disent non, c'est pas possible, on pourra pas. On voit que déjà les chiffres de ventes baissent, la croissance a baissé légèrement depuis un mois. Puis au final, il y a des gens qui risquent de perdre leur emploi. Enfin, ça va avoir un impact à la fois pour l'image puis pour l'économie. Donc, c'est un cercle vicieux, quoi.
Absolument. Fabrice, un gros merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci, Catherine.
Merci, au revoir. Fabrice de Pierrebourg, notre collègue en direct de la France. Il était là en fin de semaine. Il est toujours là. On va sûrement... probablement lui reparler demain, parce que c'est un discours très attendu du président Emmanuel Macron, qui a brisé son silence hier, mais via Twitter. Et là, je vous le disais tout à l'heure, la mobilisation, le mouvement a de nouveaux objectifs, taxer les riches pour augmenter le salaire minimum et forcer Emmanuel Macron à donner sa démission.